Vous écoutez RTL.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. RTL, il est 7h30.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et avec Jérôme Florin pour le journal. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pour la première fois, un homme témoin de l'enlèvement d'Hervé Gourdel s'exprime et c'est sur RTL.
Il était l'un des accompagnateurs du Français lors de cette randonnée fatale en Algérie. Il a assisté au rapt et raconte son impuissance et ses remords. Il n'a rien fait pour sauver son ami et il demande pardon ce matin à la famille. Dans ce journal également, parole contre parole. La parole du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, qui accuse François Fillon. L'ancien Premier ministre aurait fait pression pour accélérer les enquêtes judiciaires visant Nicolas Sarkozy. La parole de Nabila contre celle de son compagnon. Il se serait blessé lui-même avec le couteau. Les enquêteurs ont du mal à y croire. Et puis Loïc sur le perron des Alizés. La victoire de Loïc Perron cette nuit sur la route du Rhum en Guadeloupe après 7 jours, 15 heures et 8 minutes de transatlantique.
Le 7h30, Jérôme Florin.
RTL Matin.
Nabila vient donc de passer une deuxième nuit à Versailles. Pas au château, mais dans la prison, à l'isolement, dans le quartier réservé aux femmes. Elle est mise en examen pour homicide volontaire après une violente dispute avec son compagnon. Le jeune homme a été grièvement blessé par un couteau. Georges Brognier, d'après vos informations, la starlette a très vite choisi de se poser en victime.
Oui, la scène s'est déroulée samedi soir dans l'intimité du bureau du juge d'instruction. Nabila sait que son sort est alors sur le point d'être scellé. Le parquet a déjà réclamé son incarcération. La bimbo, d'une voix calme, raconte donc une nouvelle fois sa vérité. Une énième dispute de couple, son compagnon qui se saisit d'un couteau, la bagarre qui dégénère, Thomas qui se blesse lui-même de façon accidentelle. Nabila va alors pour la toute première fois évoquer les pressions psychologiques de son petit ami, capable des colères les plus folles, capable aussi de la frapper. Elle avoue ainsi les coups dont elle aurait déjà été victime ces derniers mois, sa peur de mourir quand il lève la main sur elle. Version pour le moment impossible à vérifier, c'est du parole contre parole, résume un policier. Nabila sait bien que l'image d'une femme harcelée et battue pourrait en partie changer la donne, mais les juges redoutent une simple stratégie de défense et ne manqueront sûrement pas de lui rappeler qu'elle n'a jamais déposé plainte contre son compagnon.
Information RTL signée Georges Brognier.
Là aussi, c'est parole contre parole, celle du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, contre celle de François Fillon.
L'ancien Premier ministre a-t-il fait pression pour accélérer les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy ? Il en aurait fait la demande lors d'un déjeuner en juin dernier. Une version rapportée par deux journalistes du Monde qui ont recueilli les confidences de Jean-Pierre Jouyet. Ce dernier a d'abord démenti avant de reconnaître finalement que oui, les deux hommes avaient bien évoqué le sujet. François Fillon nie en bloc. « Je rendrai coup pour coup », c'est ce qu'il a déclaré hier soir sur TF1. « Ce sont des affaires qui concernent la droite, dit-on à gauche. Et à droite, on appelle à la démission du secrétaire général, un ami proche de François Hollande. » Alors, Jean-Pierre Jouyet peut-il avoir menti ? Non, répond l'un des journalistes du Monde à l'origine de ces révélations, Gérard Davé.
Ça ne nous paraît pas possible pour la bonne simple et la bonne raison que alors on a été instrumentalisé par beaucoup de personnes en même temps qui ne se connaissent pas. Enfin, ça nous paraît hautement improbable. Je rappelle une nouvelle fois que l'information initiale ne vient pas de M. Jouyet. M. Jouyet ne fait que confirmer une information que nous avons par ailleurs, qui vient d'autres sources, autres que l'Élysée, et qui nous dit très clairement qu'il y a eu un déjeuner dans lequel M. Fillon a demandé à la justice d'accélérer les choses. Donc, M. Fillon se trompe de cible. M. Jouyet ne fait que confirmer des choses.
Gérard Davé du journal Le Monde avec Jacques Seret. Et pendant ce temps, Marine Le Pen regarde passer les balles avec gourmandise. Cette affaire, dit-elle, est symbolique de l'UMPS. Ce sont les mêmes méthodes à droite et à gauche. Fin de citation.
RTL Matin, 7h34.
Un document exceptionnel à présent sur RTL. Un mois et demi après l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel, l'un de ses accompagnateurs témoigne pour la première fois.
Oussama Dehedine a 23 ans. Il était présent lors de l'enlèvement d'Hervé Gourdel le 21 septembre dernier en Algérie. Il faisait partie du même groupe de marcheurs. Les deux hommes étaient entrés en contact par Internet, Brice Dugénie.
15 mois avant l'enlèvement, Oussama Dehedine et Hervé Gourdel, passionnés de montagne, prennent contact sur Facebook. Ils organisent alors cette randonnée. Oussama se rappelle du moment de l'enlèvement au micro de Marie-Baptiste Duhard.
On était dans un randonnée normal, pas loin de l'hôtel de Tijida, c'est normalement 15 minutes en voiture et on est à pied, on n'a rien compris, on est tous les cinq sous choc.
Le choc, c'est celui de voir arriver cinq terroristes à pied dans la forêt. Après 9 heures de captivité, Hervé Gourdel est séparé du reste du groupe qui est libéré. Les hommes se précipitent alors dans une caserne pour informer les militaires de l'enlèvement. Aujourd'hui, Oussama s'en veut de ne pas avoir réussi à aider son compagnon de randonnée.
Je suis désolé, Je voulais bien dire à la famille Hervé que j'ai rien fait sur place pour sauver Hervé. Enfin, j'ai pas courage de sauver et ça reste toujours dans ma tête.
Il aimerait rencontrer la famille d'Hervé Gourdel pour parler des derniers jours du Français.
Je voulais bien de parler avec sa femme et Arwen pour expliquer qu'est-ce qui se passe face à face. Il y a plein de photos et vidéos pour cette randonnée d'Hervé. Je voulais bien le montrer à sa famille.
Une rencontre qui pourrait avoir lieu en Algérie où devrait se rendre bientôt la famille d'Hervé Gourdel.
Brice Dugénie avec le témoignage recueilli par Marie-Baptiste Duhard pour RTL. Et justement, le chef de l'État islamique Baghdadi a-t-il été tué lors d'un raid aérien vendredi? C'est toujours l'incertitude. Les Américains disent n'avoir toujours pas réussi à identifier avec précision les dirigeants djihadistes tués ou blessés lors de cette attaque. C'est Baghdadi qui, en juin dernier, avait lancé l'offensive de l'État islamique en Irak et en Syrie. En Espagne, la réponse est si, à plus de 80%. Les Catalans veulent leur indépendance, ils l'ont dit lors d'un scrutin, par ailleurs symbolique, puisque non reconnu par le gouvernement.
Un homme est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Il sortait d'une maison envahie par des plants de cannabis.
Les policiers les ont découverts tout à fait par hasard. En fait, ils pensaient intervenir sur un banal cambriolage. À l'intérieur de cette maison, située à Tremblay, en France, des centaines de plants de marijuana répartis dans toutes les pièces, des chambres jusqu'aux combles, en passant par le cabanon du jardin. La maison est transformée en véritable ferme de culture avec lampes et systèmes de filtrage d'air ultra sophistiqués. Une saisie record pour Christophe Ragondet du syndicat de police Alliance.
C'était véritablement une maison dédiée à cet élevage. 60 mètres carrés entièrement recouverts de peaux, d'aluminium, de lampes spécifiques pour augmenter la pousse. Que du cannabis, il n'y a que ça. Où que vous passiez, il n'y a que ça. C'est véritablement colossal. Ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices à gagner sur la revente éventuelle derrière.
Christophe Ragondet du syndicat Alliance avec Jean-Baptiste Bourgeon. La vigilance orange, orage et pluie inondation est levée depuis tôt ce matin dans le Var et les Alpes-Maritimes. Même si des pluies légères continuent de tomber en ce moment, les sols sont gorgés d'eau. Parmi les dégâts du week-end, la pollution d'un canal reliant Marseille au Rhône. Après le débordement d'un bassin appartenant à une raffinerie, il a fallu l'intervention d'une trentaine de pompiers pour assainir l'eau.
RTL, 7h37.
En Belgique, la mésaventure d'un électricien s'est finalement retournée en sa faveur.
Lors de la manifestation monstre de jeudi dernier, 100 000 personnes étaient dans les rues de Bruxelles pour dire non à l'austérité. Un électricien a perdu sa voiture, il l'a retrouvée complètement calcinée. Son cas a beaucoup ému sur Internet, Maxime Wolf.
L'image a fait le tour des réseaux sociaux lors du rassemblement anti-austérité. Une Peugeot 106 orange renversée sur le toit qui part en fumée devant des manifestants euphoriques jeudi dernier à Bruxelles. Mais pour le propriétaire Abdeslam, électricien, l'heure était à l'abattement.
Je travaille la nuit, on finit le travail à 4h30, 5h. Et comment je vais retourner sans voiture? C'est une catastrophe pour moi. J'avais des outils, mon coffre était dans la voiture, il est parti en fumée.
Abdeslam n'avait pas une assurance optimum. Il avait donc tout perdu. Alors un jeune homme a décidé de lancer un appel aux dons sur un site de financement participatif. Le but, récolter 2000 euros. Mais très vite, ce sont plus de 20 000 euros qui sont collectés. Très touché, Abdeslam n'a qu'un mot à la bouche.
Je le remercie vraiment beaucoup. Je le remercie beaucoup et je le remercie pour cette solidarité.
Avec le surplus d'argent récolté, d'autres propriétaires de voitures incendiées devraient être aidés. Au total, 11 véhicules ont été calcinés en marge de cette manifestation.
Le récit de Maxime Wolf pour RTL. Sa voiture à lui, en revanche, était en excellent état. C'est l'Aston Martin d'Omar Bongo qui a été vendu aux enchères à Lyon ce week-end. Un modèle de 1985 que l'ancien président du Gabon avait redécoré de manière très bling-bling. Et pourtant, Arnaud Grange, il n'est pas parti à prix d'or, ce véhicule.
Alors, nous vendons la voiture d'Omar Bongo.
C'était le véhicule atypique de la vente, une Aston Martin Lagonda Bleue que le président du Gabon avait acheté en 1985. Un modèle unique en son genre, avec un intérieur réaménagé et doré à l'or fin.
Vous avez des dorures, tout ce qui est chrome, y compris même les ceintures de sécurité sont dorées à l'or fin. Vous avez un minibar à l'arrière avec une télévision et un magnétoscope.
Eh bien, nous commençons à 15 000 euros.
C'était à l'époque la voiture la plus chère au monde. Jean-Pierre Ozna, le commissaire-priseur.
Il était dans l'or jusqu'au bout. Les portes, les cendriers, les repose-pieds, tout ça est en or. C'est le luxe absolu.
Une décoration au goût très personnel, de quoi surprendre les passionnés de véhicules anciens.
Oh là là, c'est d'un goût invraisemblable. Ces poignées dorées, je trouve que c'est un peu kitsch. C'est à l'image du personnage. Quand on est dictateur, il faut que ça pète. Ça en jette, alors que ça ne va pas vraiment avec l'image de la voiture. Aston Martin, c'est plutôt une marque anglaise, discrète. honnête, sobre. C'est un peu en décalage.
J'adjuge à 37 000 euros, une fois, deux fois, trois fois. Adjugé 37 000 euros.
On ne connaît pas le nouveau propriétaire. C'est un enchérisseur par téléphone qui a remporté la vente.
37 000 euros pour l'Aston de Marbongo, c'est plus la voiture la plus chère du monde.
Non, voilà une voiture bien acquise.
Voilà.
Il sera notre invité à 8h15, Loïc Perron, vainqueur cette nuit de la 10e route du Rhum.
Tous les chemins mènent au Rhum pour le Français de 54 ans. Une victoire et un record, puisqu'en ayant relié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 7 jours, 15h08 sur son trimaran Banque Populaire, il fait encore mieux que Lionel Lemonchois en 2006. C'est sa 6e participation à la course, mais la première fois qu'il gagne. En football, le leader marseillais n'a plus qu'un tout petit point d'avance sur Paris, 20e match sans défaite pour le PSG, 2-0 contre l'OM. Deux buts signés Lucas et Cavani, un deuxième but réalisé notamment grâce à l'appui d'Ibrahimovic qui faisait son grand retour sur le terrain après sa blessure au talon.
40 ans qu'il fait tourner les serviettes, Patrick Sébastien est l'un des animateurs préférés des Français.
Et il fêtera vendredi ses 4 décennies de carrière à l'Olympia à Paris. Laurent Marsic, vous avez pu vous rendre dans l'antre d'un artiste qui a su rester modeste.
À l'entrée de son studio à Brie-sur-Marne, aux portes de Paris, une pancarte n'a pas bougé depuis des années. On y lit « Ici, il n'y a pas de stars, il n'y a que des artistes ». N'y voyez pas de la démagogie, Patrick Sébastien lui aussi a commencé dans les années 70 par les cabarets.
Et sur scène, je fais Bourville, je fais Dassin, je fais les mecs de l'époque.
Le matin, il se lève.
Et je passe de cabaret en cabaret, je gagne 30 francs. Et je participe aux émissions de télé, je regarde.
Et la télévision lui ouvre donc les bras. Il décroche sa première émission sur TF1 en 1984, qu'il quittera en 1996 pour France 2. Il enchante les soirées de la Une. Tout comme celle de la 2, les audiences suivent à chaque fois. Il ose tout, parfois sévèrement critiqué, il part les coups et poursuit sa route. Aujourd'hui, après 40 ans de carrière, Patrick Sébastien est un boulimique. Il écrit, fait du théâtre, des téléfilms, produit des artistes, chante et continue bien sûr la télé. Mais l'homme est lucide. Nous ne sommes rien, dit-il encore.
Je sais que je suis inutile. J'essaie surtout de ne pas décevoir ceux qui m'aiment.
On se fait un coup de sardine !
Et pour ses 40 ans de carrière, et le jour de son anniversaire, 61 ans, il s'offre donc l'Olympia, une soirée retransmise ce vendredi par France 2.
Salut! Putain, on va faire la fête, tu vas voir.
Ça, c'est lequel le vrai, alors moi je comprends plus.
Ça, c'était Laurent Girard.
Ah oui.
À 8h45.
Très bien.
Voilà. Mais bon, c'est voilà. Que de l'amour.
Voilà. Mais voilà. Vous faites très bien, Yves, les sardines. Hein.
Oui, j'entends bien. Et comme on dit dans les talk shows à l'américaine, Laurent Marsic nous en dit plus. Oui. À partir de 9h dans Laissez-vous tenter. C'était le journal de Jérôme Florin en musique. Journée. Calme, sauf à l'est.
Exactement.
Je me concentre parce que ça bouge avec toutes ces pluies.
C'est vrai que c'est plutôt calme, sauf à l'est, comme vous le dites, essentiellement de l'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Il y a encore des averses, averses encore bien soutenues sur le sud-est du pays, mais plus de vigilance orange. Et puis pour les autres régions, c'est calme. Alors, il y a quelques averses qui traînent près des côtes de la Manche et des côtes atlantiques, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Et donc, on a un ciel avec de belles éclaircies, notamment vers l'Île-de-France, mais aussi quelques passages nuageux, notamment vers la Bourgogne. Enfin, ce sera ce ciel variable des Pyrénées. Au centre, à la région parisienne, jusqu'à la Belgique. À signaler quand même que cet après-midi, sur la Bretagne, ce sera de plus en plus nuageux, avec un vent qui va souffler fort et puis quelques averses. Ça, ce sera pour une perturbation. Demain, on a le temps d'en reparler. Et les températures sont généralement douces ce matin. Cet après-midi, deux saisons, à part dans le sud-est où ce sera très agréable. 22 à Ajaccio, 18 à Nice. Sinon, vous aurez 15 à La Rochelle. Il fera 13 à Paris et Orléans, 12 à Lille et Reims.